à toutes, bonsoir à tous, vous écoutez Transistor, il est 20h, passé de 31 minutes. C'est l'heure du journal radiophonique amplifié, on est bien tous là au studio de l'ENS avec nos petites lampes allumées, l'équipe est autour de moi pour toute une actu, mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée.
Au programme aujourd'hui, on commence par le journal avec du national, des européennes, la Birmanie et un point sur le nucléaire iranien. Il y aura la revue de presse, la notion pourrie d'Arthur sur l'ENA, des pieds dans le tapis de Rémi et un journal de la culture qui aujourd'hui sera fait par Marie et Arthur, une musicienne, et on ira sur le chemin de l'école avec un autre Arthur.
Le journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Et tout de suite, on démarre avec le journal et ça commence avec le national, Marie.
Oui, c'est ça, et c'est Benoît qui va nous faire un point sur les élections européennes.
Alors en effet, alors que les élections européennes du 26 mai s'approchent de semaine en semaine, l'air de campagne devient de plus en plus palpable, sur fond de forte mobilisation sociale. La liste de la majorité a dévoilé aujourd'hui son programme pour les élections. Je cite « Nous pouvons reprendre le contrôle du destin de l'Europe » et le nouveau motto du parti, se positionnant résolument face à une croissance des gouvernements populistes en Europe. L'enjeu de l'élection y ressort comme référendum pour ou contre le projet européen. Au sein de ce texte voulant rassembleur, la proposition de créer une banque pour le climat, de taxer les géants du numérique, de poursuivre le projet d'armée européenne, de développer les échanges Erasmus, de responsabiliser les entreprises pour respecter, je cite, « nos valeurs dans la mondialisation », un programme progressiste donc, au sens tout macroniste du terme, qui reste ainsi dans la veine de son parti, une façade d'enjeux sociaux vaguement dessinée et des solutions somme toute très libérales.
On passe ensuite, puisque l'on parle des élections européennes, à une affaire qui pourrait porter préjudice au Rassemblement national qui occupe jusqu'à présent les premières places dans les sondages. Le Canard Enchaîné et Challenge ont en effet accusé Jordan Bardella, tête de liste du RN aux européennes, d'emploi fictif au Parlement européen. Les journaux dénoncent un usage irrégulier de l'indemnité d'assistant parlementaire et précisent la situation. La tête de liste de 23 ans aurait été assistant parlementaire de l'eurodéputé RN Jean-François Jalck à mi-temps, et ce pour un coût total de quelque 10 400 euros, alors même que Bardella était aussi secrétaire départemental du RN en Seine-Saint-Denis et chargé de mission au pôle veille et prospective du FN et qu'il n'aurait pas ou très peu travaillé pour M. Jalck. Des accusations que Bardella a vite balayées d'un revers de la main, évoquant, on s'en doutait, une vile manipulation politique. « Je ne suis mise en cause nulle part par la justice française », a déclaré le candidat. « On essaie, je cite, de salir ma candidature, car certains journalistes sont prêts à tout pour sauver le soldat Macron. » Une révélation qui intervient alors que le RN est soupçonné d'avoir utilisé les fonds de Bruxelles pour salarier fictivement des assistants parlementaires européens, travaillant en réalité, non pas pour le Parlement, mais pour le RN français. Une affaire, une de plus d'ailleurs, dont les suites ne sauraient se faire attendre. Benoît, tu nous parles maintenant de la grève des fonctionnaires.
Eh oui, les fonctionnaires appelés à la grève ce jeudi ont été 108 900 dans les rues partout en France, selon le ministère de l'Intérieur, et 250 000 selon la CGT, contre le projet de loi supposé moderniser leur statut, qui passera devant l'Assemblée lundi prochain. Ce jeudi fut ainsi la quatrième journée de mobilisation nationale dans la fonction publique depuis le début du quinquennat, et la première à rassembler unanimement les 9 organisations syndicales du secteur public. Ces derniers dénoncent une réforme grave que le gouvernement cherche à faire passer en force, afin d'aligner les règles de la fonction publique sur celles du privé. Ceci, au dépit du statut de fonctionnaire et de l'indépendance des agents. L'objectif de la loi, outre le recours plus massif à la contractualisation de ces travailleurs, est celui de la suppression de 120 000 postes d'ici à 2022, jugé atteignable par le ministre des Comptes Publics Gérald Darmanin. En attendant les premiers débats parlementaires, les syndicats ont assuré que cette journée de manifestation ne serait qu'une étape de leur mobilisation.
Et pour finir, Mathilde, un point sur le sommet G7 de l'environnement à Metz, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Du samedi 4 au lundi 5 mai, la ville de Metz a reçu le G7 des ministres de l'Environnement, un sommet pour préparer un autre sommet qui sera annuel et qui se tiendra en août à Biarritz. Les militants écologistes et des Gilets jaunes ont défilé, ils étaient plus de 3000, avec un déploiement important des forces de police, pour dénoncer ce sommet inutile et pour rappeler que l'écologie n'est pas soluble dans le libéralisme. Des militants de l'Alter G7 ont également joué dimanche une scène de catastrophe naturelle devant la gare pour dénoncer la mascarade des grandes puissances face à l'urgence climatique.
Et tout de suite, on passe à l'international, Marie.
Oui, c'est ça, on commence par un petit peu de positif, puisque la Birmanie a libéré hier 2 journalistes de Reuters qui ont passé plus de 511 jours en détention, accusés de violation de secret d'État. Les deux hommes, qui ont reçu le prestigieux prix Pulitzer pour leur reportage « Massacre au Myanmar », enquêtaient sur l'exécution de paysans Rohingyas par des soldats birmans. Alors qu'ils allaient découvrir et annoncer la vérité sur l'extermination des Rohingyas, la police birmane avait tendu un piège à ces deux journalistes pour les arrêter et les empêcher de connaître la vérité. Fin 2018, l'armée a finalement reconnu sa responsabilité dans l'exécution des paysans, effectivement tués par des soldats et par des membres de milices bouddhistes. La condamnation des journalistes avait soulevé un tollé international et des défenseurs des droits humains avaient exhorté Aung San Suu Kyi, chef du gouvernement birman et prix Nobel de la paix, à user de son influence pour gracier les journalistes. Cette dernière avait refusé d'intervenir, invoquant l'indépendance de la justice et justifiant l'emprisonnement des deux hommes par une enfreinte à la loi. Washington a salué la libération des journalistes, décision prise par le régime birman au nom de l'intérêt national sur le long terme, et les deux hommes, qui ont rejoint leur famille, ont déclaré, je cite, « continuer leur boulot ». Une affaire qui interroge sur la liberté de la presse dans un pays coupable de ce qui n'est ni plus ni moins qu'un génocide contre une minorité musulmane persécutée. On part maintenant en Iran avec toi, Benoît.
Eh oui, les chefs d'État des 27 pays de l'Union européenne ont rejeté aujourd'hui l'ultimatum de Téhéran sur son programme nucléaire, tout en restant précautionneux de toute escalade provoquée par les multiples pressions des États-Unis. Mercredi, Téhéran avait donné 2 mois aux Européens pour sortir les secteurs pétroliers et bancaires iraniens de leur isolement causé par les sanctions américaines, faute de quoi la République islamique renoncerait à ses engagements pris lors des accords de Vienne en 2015. Si les 27 ont rejeté les menaces iraniennes, ils ont réaffirmé leur engagement ferme pour une levée des sanctions au profit du peuple iranien. Washington avait en effet déjà durci ses sanctions économiques mercredi dernier en ajoutant l'acier, le fer, l'aluminium et le cuivre au secteur visé de mesures préventives.
Un point maintenant sur une décision contestée en Turquie. L'AKP, le parti islamo-conservateur du président Erdogan, a fait annuler les élections municipales remportées à Istanbul par l'opposition, évoquant les irrégularités massives du scrutin. Un nouveau vote est prévu le 23 juin et Erdogan espère cette fois éviter une défaite qui serait catastrophique pour son parti. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Erkem Imamoglu, le candidat de l'opposition qui avait remporté le scrutin le 31 mars dernier, appelle à rester mobilisé et dénonce un putsch contre les armes. Un vice-président du Parti républicain du peuple a même parlé sur Twitter du régime actuel comme d'une dictature. Les habitants, eux, dénoncent l'absurdité de la décision de leur président. Certains avancent le fait que les Strambouliotes avaient voté 4 fois, pour le maire de la ville, pour le maire de leur arrondissement, celui de leur quartier et pour le conseil municipal, mais que seule l'élection du maire d'Istanbul a été annulée. D'autres voient la décision du Haut Conseil électoral comme reflet de l'échec de la démocratie et signe de la fin de la légitimité du système électoral turc. Une légitimité déjà fragilisée lorsque le gouvernement avait remplacé des maires kurdes par des administrateurs nommés par le ministre de l'Intérieur après le putsch de 2016. L'enjeu pour Erdogan est donc de taille, remporter le 23 juin des élections cruciales, cruciales car Istanbul est un symbole important, capitale économique et démographique du pays, mais cruciale aussi parce que la ville contrôle des ressources financières conséquentes redistribuées au soutien de l'AKP. On finit donc par des élections en Afrique du Sud. 25 ans après l'apartheid, et alors que le parti au pouvoir a déçu par des mesures économiques inefficaces et par une corruption importante, 27 millions de Sud-Africains sont appelés aujourd'hui aux urnes pour un scrutin législatif et provincial. Malgré des affaires de corruption, une économie peu dynamique et le fait que 27% de la population soit encore au chômage, c'est le Congrès national africain, l'ANC, le parti de Nelson Mandela, qui est favori. Le président, Cyril Ramaphosa, qui a pris la tête du pays en 2017 après la démission forcée de Jacob Zuma, devrait donc conserver sa majorité absolue au Parlement. Ce leader syndicaliste, dauphin de Mandela, s'était engagé dans les affaires après son échec à la présidentielle face à Thabo Mbeki. Élu en 2017, il promet aujourd'hui de lutter contre la corruption qui gangrène le pays et de relancer l'économie et insiste sur la rupture avec le passé de l'ANC. Une promesse qui convainc de moins en moins des jeunes déçus par un parti qui n'a pas tenu ses promesses et qui compte encore parmi ses dirigeants des membres de l'ancien clan de l'ex-président Zuma. Un constat qui pousse une part croissante de la population à choisir de voter blanc ou de se tourner vers l'un des deux grands partis d'opposition. L'Alliance démocratique, qui cible la classe moyenne noire mais dont l'image a été ternie par des dissensions internes, et le parti de gauche radicale du charismatique Julius Malema, combattant pour la liberté économique, EFF, un parti qui gagne clairement du terrain dans les townships et séduit les jeunes et les plus pauvres. Si l'ANC est en passe de remporter l'élection, elle a donc encore plusieurs défis à relever pour redresser le pays et rebondir sur les critiques nombreuses que lui adresse une population sceptique.
Il est 20h40 et c'est la fin du journal. On passe maintenant au billet d'ailleurs avec toi Marie et on part au Japon.
Oui, nous allons aujourd'hui évoquer le Japon qui rentre dans une nouvelle ère avec le début du règne de Naruhito, fils aîné de l'empereur Akihito, qui a abdiqué à la fin du mois dernier.
Tu as parlé de changement d'ère, ça m'intrigue. Qu'est-ce qui se passe au Japon en ce moment ?
Alors, mardi 30 janvier, l'empereur Akihito, 85 ans, a abdiqué en faveur de son fils et après 30 ans de règne, lors d'une cérémonie très protocolaire qui s'est tenue au palais impérial. Le mercredi 1er mai, c'est donc son fils aîné Naruhito qui a été intronisé nouvel empereur du Japon lors d'une cérémonie encore une fois très codifiée. Le nouvel empereur a reçu les sceaux royaux et les trésors sacrés qui officialisent son statut d'empereur avant de prononcer son premier discours dans lequel il s'est engagé, je cite, à remplir ses obligations de symbole de l'État et de l'unité du peuple en ayant toujours le peuple à l'esprit et en se tenant toujours à son côté. Le 1er mai à minuit, le Japon est donc entré dans l'ère Reiwa, ou ère de la nouvelle harmonie, l'ère qui correspond au règne du nouvel empereur et qui met fin à l'ère Heisei, ou ère de l'accomplissement de la paix, entamée avec le début du règne de l'empereur Akihito.
Et Naruhito alors, ce nouvel empereur du Japon, qui est-il vraiment ?
Alors, fils aîné de l'empereur, il a 59 ans, a étudié le commerce maritime à Oxford et s'intéresse en particulier aux problèmes liés à l'eau, comme la question des catastrophes naturelles ou de l'accès à l'eau potable. Il se marie avec Masako Owada, une roturière étudiante en diplomatie nippone et diplômée d'Harvard et d'Oxford, et le couple aura une fille, Aiko, qui a maintenant 17 ans, mais pas de fils, donc pas d'héritier mâle. D'ailleurs, la femme de l'empereur a longtemps subi une forte pression pour avoir un garçon, une pression qui aurait contribué à la détérioration de son état de santé. Naruhito est aussi amateur de tennis, de randonnée et d'alto, mais, soyons un peu sérieux au niveau politique, il cherche à rester aussi populaire et proche du peuple que son père, mais veut également sensibiliser le pays à la question de l'eau potable et poursuivre la politique entamée par son père, à savoir accepter le passé, et notamment le rôle du Japon pendant la guerre, et le transmettre correctement. Je cite le nouvel empereur, « Il faut transmettre correctement à celles et ceux qui ne l'ont pas connu les expériences de l'histoire tragique du Japon. »
Mais tiens, quand on y pense, l'empereur du Japon, il sert à quoi vraiment ?
Alors, le Japon est le dernier pays à avoir encore à sa tête un empereur, et la fonction impériale a au Japon une longue histoire. D'après la tradition, le premier empereur du Japon descendrait de la déesse du soleil, fille des dieux créateurs du monde. Dans un premier temps, l'empereur japonais avait donc un statut divin et un pouvoir considérable sur le pays. Ensuite, l'empereur a vu son rôle s'amoindrir, et au XIXe siècle par exemple, c'était davantage les shoguns, des commandants militaires chefs de grandes familles, qui exerçaient le pouvoir. On a donc parlé de shogunat. C'est en 1946 enfin qu'intervient une rupture majeure. L'empereur Hirohito doit renoncer officiellement à son statut semi-divin après la défaite du pays. Une nouvelle constitution, entrée en vigueur l'année suivante, stipule que l'empereur n'a désormais plus ni statut semi-divin ni rôle politique. Aujourd'hui donc, le Japon est gouverné par un premier ministre, actuellement Shinzo Abe, et son gouvernement, mais l'empereur a toujours une fonction symbolique importante, puisqu'il représente l'État, incarne la nation japonaise, et est enfin prêtre suprême du Shinto, cet ensemble de croyances ancestrales qu'on présente parfois comme religion au Japon, et chargé d'organiser les cérémonies officielles. Bref, l'empereur a un rôle très réduit, et ne possède plus ses anciens pouvoirs de monarque absolu.
J'imagine que cette nouvelle Reiwa fait suite à des ères nombreuses et variées ?
Oui. En fait, le système d'ère existe depuis le 1er siècle et a été adapté du système qui existait en Chine. Chaque ère correspond au règne d'un empereur et l'empereur prend à sa mort le nom de l'ère qui lui était associée. La première ère était l'ère Taika, entamée en 645 avec le règne de l'impératrice Kogyoku, et dans l'histoire récente, plusieurs ères ont marqué le pays. Petit tour d'horizon donc, des ères marquantes pour l'histoire du Japon. La première est l'ère Meiji, débutée en 1868. Cette ère correspond à la fin de la politique féodale et de l'isolement volontaire du Japon. La seconde est l'ère Showa, qui désigne la période du règne de l'empereur Hirohito, de la montée du nationalisme japonais et des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, puis de la reconstruction du pays avec ce qu'on appelle le miracle japonais. Enfin, la dernière ère clé est l'ère Heisei, ou ère de la paix en devenir, qui vient de s'achever avec l'abdication du nouvel empereur Akihito, la première de l'histoire japonaise. C'est une ère durant laquelle le Japon n'a pas connu de guerre, mais qui a été marquée par une crise multiforme. La démocratie a certes progressé, mais de l'autre côté, le pays a dû faire face à de nombreux problèmes.
Des problèmes de quel genre ?
Alors, des problèmes liés au vieillissement démographique, des problèmes politiques et sociaux, et puis enfin des problèmes économiques, puisqu'après la période de prospérité du miracle japonais, on assiste en 90 à l'éclatement de la bulle spéculative au Japon.
J'imagine donc que face à ces problèmes, les enjeux pour cette nouvelle ère sont nombreux.
Alors oui, le premier problème c'est l'économie avec la crise et une dette publique qui représente 170% du PIB, le deuxième problème le vieillissement démographique, et puis enfin la centralisation avec la population qui se concentre en ville à Tokyo.
Revenons donc à l'intronisation de ce nouvel empereur et à l'ouverture de cette nouvelle ère. Que peut-on en dire ?
Alors justement, ces cérémonies d'intronisation sont importantes et on peut tirer un constat alarmant et deux anecdotes révélatrices. Je commence par quoi ?
Le constat alarmant ?
Alors, Allons-y. Si vous aviez assisté à la très officielle cérémonie d'intronisation de l'empereur Naruhito, vous n'auriez pas eu le temps de vous ennuyer puisque la cérémonie n'a duré que 6 minutes et surtout vous auriez vu un public entièrement masculin, à l'exception d'une seule femme, la seule ministre femme du gouvernement du premier ministre Shinzo Abe.
C'est l'occasion de s'interroger sur la question de la place de la femme dans la société japonaise.
Oui, puisqu'au sein de la famille impériale, d'abord, les femmes sont exclues de la succession et exclues de la famille en cas de mariage, mais également dans la société, la place des femmes est problématique. Le Japon est un des pays développés où l'écart de salaire entre hommes et femmes est le plus marquant, 25%. Et en termes de représentation politique des femmes, le Japon se classe à la 163e place sur 193, soit, tenez-vous bien, 60 places derrière l'Arabie Saoudite. Autre chiffre marquant, les assemblées locales comprennent en moyenne seulement 13% de femmes et pour 42% des 18-29 ans, les femmes doivent rester s'occuper du foyer.
Et on passe à l'anecdote maintenant ?
Oui, la première concerne la passion de l'ancien empereur Akihito, qui est en fait passionné d'ichtyologie, c'est-à-dire de l'étude des poissons.
Et pour finir, une deuxième anecdote.
Alors oui, une plongée dans l'envers du décor, en fait le nom de cette nouvelle ère n'est pas anodin, puisque le gouvernement aurait voulu choisir un nom issu de la littérature japonaise et non plus chinoise, puisque Reiwa provient d'un poème du 8e siècle dans lequel Rei était utilisé dans le terme Reigesuku, décrivant un mois propice après un hiver rigoureux. Pour de nombreux japonais, ce choix est donc loin d'être un hasard, il serait une expression du nationalisme du premier ministre et permettrait à Shinzo Abe de renforcer sa popularité en baisse en promettant de nouvelles mesures.
Un changement qui cause des remous dans l'administration.
Oui, puisqu'au Japon, le calendrier utilisé dans l'administration n'est pas le calendrier grégorien, mais bien le calendrier impérial. Les documents administratifs sont donc basés sur les ères, et il est répandu d'énoncer une date en mentionnant la première lettre du nom de l'ère, puis l'année. Par exemple, H10 pour la 10e année de l'ère Heisei. Un fait qui pose donc de gros problèmes aux entreprises et administrations, qui vont devoir changer le nom de l'ère sur tous les papiers et systèmes informatiques en très peu de temps.
Et le mot de la fin, ce sera donc ?
Ce sera donc l'incertitude, puisqu'on ne sait pas encore si cette ère va marquer le début des changements dans une société marquée par un certain nombre d'archaïsmes.
Merci Marie pour ce petit point sur la nouvelle ère au Japon.
Le journal radiophonique amplifié sur Transistor.
Merci Marie, merci Mathilde. Il est 20h passé de 48 minutes, c'est l'heure de la revue de presse sur Transistor.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors on commence avec une une que tu as bien aimée aujourd'hui Mathilde.
Oui, c'est la une de Libération qui a transformé Macron en Hulk. Le regard songeur, la photographie avec un gros filtre vert, c'est vraiment très réussi. C'est une manière pour le journal de questionner le soi-disant super-héros du climat qui, comme l'indique le titre, joue sa carte verte pour les européennes. Lorsqu'on feuillette le quotidien, on comprend mieux de quoi il est question. Le climat est établi comme la priorité des Français pour les européennes et le président essaye donc de reverdir son image comme le montrent les 6 mesures environnementales annoncées aujourd'hui par la liste à l'REM. Libération nous décrypte ces 6 mesures sur le modèle « ce qu'il propose, ce qu'on en dit », un article très succinct pour montrer que le programme de La République En Marche n'est pas tellement convaincant. Le Canard Enchaîné se moque aussi de la prétention écologique de notre président en titrant « Biodiversité, le cri d'alarme de l'écolo Macron, pour baisser les impôts, moi aussi je manque d'espèces ».
Alors et dans le Figaro, notre journal préféré ici à l'Amplifié, le ton est un petit peu moins moqueur pour parler de la campagne des européennes.
Oui, c'est plutôt une coïncidence amusante ou un choix stratégique, je me pose toujours la question à propos de cette une du Figaro. Sous le titre « Européenne, l'oiseau veut relancer sa campagne », c'est une photo d'Emmanuel Macron, et non de l'oiseau qui apparaît. Emmanuel Macron qui commémorait le 8 mai. Le Monde, lui, est plus tranché et moins ambigu, puisqu'il titre en une, au-dessus d'une autre photo de cette commémoration du 8 mai, « Macron tête de liste de la campagne européenne ». D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller répondre au sondage du Figaro. Emmanuel Macron doit-il s'investir plus dans la campagne des élections européennes ? En fait, c'est très interactif, le Figaro. Par exemple, si vous êtes abonné au Figaro Premium, ce qui, je suis sûre, est le cas de tout le monde dans ce studio, vous pouvez même utiliser leur simulateur. Pour
on
savoir.
En a 3 en régie.
Ah, super. Eh bien, vous pouvez utiliser le simulateur du Figaro pour savoir à quel point vous êtes riche. Je vous assure, c'est pas une blague, c'est un outil qui permet de se situer dans l'échelle des revenus et des patrimoines français.
Eh bien, on se perd un petit peu là entre les riches, les européennes, l'écologie, les projets de loi. Ça valse dans l'actualité en ce moment. Alors, à quel article t'es-tu raccroché avant d'être englouti par le flot des nouvelles, Mathilde ?
Oui, rien de tel qu'une perspective bien
rien
choisie.
Rien de tel qu'une relance bien...
C'était juste pour toi. Rien de tel qu'une perspective donc bien choisie pour se raccrocher au milieu de l'actualité. Alors, la perspective que j'ai choisie, c'est celle d'un article de L'Humanité. Et son angle d'attaque est très intéressant et il permet de décortiquer le fameux projet de loi de transformation de la fonction publique qui suscite tellement de débats. Pour la journaliste Karine Janselme, c'est dit dans le titre, il s'agit d'un projet de loi contre les femmes. Elle rappelle que 82% des postes à temps partiel sont occupés par des femmes et que ces temps partiels sont souvent imposés. Or, cette situation inégalitaire ne sera que renforcée par le projet de loi, puisqu'il accentue la possibilité de recourir au temps partiel et au contractuel. De même, augmenter la part du salaire au mérite ne fera que désavantager les femmes, car l'évaluation du mérite se fera sur des tâches en dehors des missions prévues par leur statut. Et on sait aujourd'hui que les femmes ont moins de temps à accorder à celles-ci, du fait des tâches domestiques et de la prise en charge des enfants ou des parents, qui restent bien sûr très largement de leur domaine, est-il vraiment besoin de le rappeler ? Concernant les plans de prévention sur l'égalité et de lutte contre les discriminations qui sont prévus par le projet de loi, les employeurs ne sont tout simplement pas tenus d'avoir des obligations de résultats. Et au passage, la journaliste rappelle qu'environ 2/3 des agents de la fonction publique sont en fait des agentes. Pas bête dans ce cas de faire un article sur la case de la fonction publique par le prisme de l'inégalité des genres.
Les femmes, on en parle aussi ailleurs dans la presse aujourd'hui, Mathilde ?
Oui, puisqu'on parle des femmes, on peut lire Le Figaro qui dresse un bilan de leur maltraitance. Mais cette fois, c'est vraiment intéressant. Enfin, en tout cas...
Je ferai un petit simulateur pour savoir si on est une femme aussi.
Non, il rappelle simplement que depuis janvier, c'est 31 femmes qui sont mortes battues par leur mari, comme Julie Doube, qui est morte le 5 mars dernier. Et c'est un rappel plus que nécessaire, un chiffre effrayant essentiel à inscrire sur les pages. Alors pourquoi un chiffre aussi nécessaire ? Peut-être pour éviter que ces meurtres soient traités trivialement par la presse, et je pense à Aujourd'hui en France. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de lire ce journal... Pour cette revue de presse, pour la première fois, je me suis dit qu'il était temps de diversifier un peu mes lectures. Et ce fut loin d'être une expérience très plaisante. Il y a de quoi être en colère lorsqu'on voit le traitement de l'assassinat de Marie-Alice Dibon, rangé dans la simple catégorie « faits divers », avec tous les détails morbides d'un très mauvais feuilleton. On parle de son corps nu, tassé dans une valise qui flotte sur une rivière. On parle des voisins qui décrivent son ex-compagnon, un des suspects, comme quelqu'un de très gentil. Et il y a bien sûr la dose de pathos. Ça faisait 15 ans qu'ils étaient ensemble avec son actuel compagnon. Et le journaliste de nous préciser que c'était une femme remarquable, qu'elle avait une très bonne compétence dans son domaine professionnel. Donc oui, et alors, si elle avait été nulle à son job, est-ce qu'on l'aurait moins regretté ? Bref, en lisant Aujourd'hui en France, on apprend que la violence faite aux femmes n'est toujours pas traitée à la hauteur de sa gravité dans certains journaux. Alors on ferme ce journal et on en ouvre un autre.
Oui, on ouvre les pages du Monde pour une enquête fouillée sur la relation entre Coca-Cola et le monde de la recherche.
Oui, c'est une double page passionnante pour comprendre comment Coca-Cola finance et influence la recherche en matière de santé. On y apprend, sans être trop surpris, que dans les contrats que la firme signe avec les scientifiques qu'elle sponsorise, par exemple 8 millions donnés aux scientifiques français, elle s'arroge le droit d'empêcher la publication des résultats qui lui déplaisent. Mise en cause dans la pandémie d'obésité et de diabète mondial, Coca-Cola a pour principal objectif de détourner l'attention du rôle joué par le sucre sur la santé, en insistant sur le manque d'activité physique pratiquée régulièrement. L'inspection de ces contrats, qui révèle les stratégies de la firme transnationale, a été permise par l'ONG américaine US Right to Know pour forcer l'entreprise à une plus grande transparence. Une collusion entre monde de la recherche et intérêts de Coca-Cola qui ne donne pas envie de reprendre un verre.
Le journal radiophonique amplifié sur Transistor.
Et c'est maintenant l'heure de ta notion pourrie, Arthur.
Journal radiophonique amplifié, la notion pourrie avec Arthur.
Bonsoir Rémi, bonsoir Mathilde. Et oui, aujourd'hui on va parler de la suppression de l'ENA et se poser la question si l'ENA, eh ben, est-ce que c'est une notion pourrie en soi ? Parce que ça a été la tragédie de beaucoup de gens de l'ENS d'apprendre que l'ENA pouvait être supprimée, mais Macron a surtout parlé de supprimer les grands corps. Mais supprimer les grands corps, c'est forcément toucher à la formation de ces grands corps. Et ces grands corps sont souvent formés par les têtes du concours de l'ENA, que ça soit la Cour des comptes, l'inspection des finances ou le Conseil d'État. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Et surtout, en quoi ça va impacter l'ENA ? En fait, déjà, il y aurait beaucoup à dire sur l'ENA, parce que ça touche énormément au mythe méritocratique républicain, mais ça touche aussi à un imaginaire très militaire de la France, où on avait tendance à sélectionner les plus grands généraux dans des grandes écoles. On avait créé l'ENA en 1945 à la fois de telle façon de concurrencer Sciences Po Paris, qui ne recrutait que des élites parisiennes, et aussi concurrencer ce qu'on appelait les ingénieurs sociaux, qui étaient la crème de la crème des hauts fonctionnaires et qui trustaient avec une sorte de physique sociale toutes les grands instituts publics à la manière d'Alfred Sauvy. Mais maintenant, on a en fait qu'un concours externe qui ne fait que piocher les acharnés scolaires, les gens qui sont passés à la fois par les classes préparatoires, Sciences Po, la prépa et un dernier concours qui est particulièrement agaçant et répétitif. Tandis qu'il existe un concours interne où, si on calcule les chances de réussite, un enfant d'ouvrier a environ 4 fois plus de chances de réussir qu'au concours externe. Mais ce concours interne n'est pas assez trusté, n'est pas assez diffusé et surtout il ne permet pas d'accéder au grand corps aussi facilement. Et de fait, il y a une concurrence stricte dans le classement en fin d'année où, résultat, le Conseil d'État, l'Inspection des Finances et la Cour des Comptes ont tendance à être préférés à d'autres endroits qui sont alors pour les moins bien classés du classement comme l'Inspection Générale aux Affaires Sociales. Donc, on parle d'une réforme de l'apprentissage qui serait peut-être nécessaire, et moi je dirais qu'il faudrait peut-être commencer à se poser la question de l'économie à enseigner à l'ENA, mais surtout se poser la question du fait que ça soit gonflant pour les élèves. C'est bien pour ça que ceux-ci veulent voir ce qui se passe dans la vraie vie, quitte à ce que l'on les balance dans des entreprises privées et qu'ils apprennent les habitudes de là-bas. Et en fait, on a voulu, en créant l'ENA, former des généralistes qui ne puissent jamais que rester à un seul ministère et devenir des sortes de bunkers imprenables. Et le seul problème, c'est qu'on pourrait penser à supprimer l'accès au grand corps, et c'est ce que propose actuellement un chercheur qui a travaillé sur la fabrique de ces énarques pour essayer d'éviter les Rastignacs qui viendraient tout simplement à l'ENA pour pouvoir avoir les plus hautes fonctions politiques. En fait, on commence à se demander si Macron ne rêve pas un petit peu, s'il veut une administration d'entrepreneurs innovants à la Schumpeter, plutôt que d'essayer de former tout simplement des hauts fonctionnaires. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si l'ENA est morte, alors vive l'État. Car plus que la haute école, c'est dans la physique interne de l'État, dans les stratégies d'expansion et de maintien d'une administration, que se trouve actuellement, à mon avis, le problème. Et Macron ne choisit pas de le traiter.
Merci pour ce petit point, Arthur. On passe tout de suite au pied dans le tapis.
À l'heure où la saturation du monde en images commence à se faire sentir, où vous ne pouvez plus sortir de sous votre couette sans être assailli par une pluie d'émoticônes souriantes ou morveuses de larmes mal séchées, alors où Marlène Schiappa fait sa pub chez Hanouna sur tous les écrans entre deux plages de pub pour Durex ou William Sorin, où Big Brother a rasé sa moustache pour s'appeler JC Deco et sourire sur chaque abribus comme si telle école d'informatique à 20 000 euros l'année avait vraiment changé sa vie, où les zombies du métro Candy Crush à longueur de journée pendant que la lumière de leurs écrans barbituriques est retransmise en direct dans un PC sécurité via la vidéosurveillance. Alors donc où tout est image, le règne du son, nous dit-on, s'annonce, car il faut bien que l'humanité, armée de cette redoutable catapulte à caca qu'on nomme capitalisme moderne, pourrisse inlassablement de nouveaux domaines. Le son donc, pour que nous désapprenions à écouter comme nous avons désappris à voir noyé dans un brouhaha d'images, pour que la ville, le travail et jusqu'au foyer sonnent des voix de 1000 écrans acoustiques déployant leurs vibrations jusqu'au fond de nos pensées toujours plus brouillonnes et déconcentrées. Alors oui, nous consommerons du son comme nous consommons des images au pas de course jusqu'à en perdre haleine sans plus nous arrêter qu'avec notre moelle épinière, laissant le sens des sensations dans leur coquille artificielle comme un emballage, peut-être tout simplement vide. La digestion seule le saura qui se fera la nuit quand nous sommeillerons repus d'un tel festin sonore et visuel. Repus comme cet homme à Taïwan endormi avec ses écouteurs sans fil, réveillé le matin sans réussir à remettre la main sur le deuxième écouteur et pour cause. La musique jouait patiemment dans son estomac, comme pour annoncer que le son de nos vies prendra peu à peu le goût de la merde.
Journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Et il est 21h et heureusement qu'il reste Transistor pour un vrai festin de son. Alors on passe tout de suite au chemin
alors
de l'école.
Alors que le son disparaît petit à petit de France Inter par ailleurs.
Bon. Grâce à toi Arthur, le son garde de la qualité.
Journal radiophonique amplifié sur le chemin de l'école avec Arthur.
Tu vas nous parler de comment on apprend à aimer aujourd'hui.
Eh oui, tout à fait Mathilde. Aujourd'hui, apprendre à aimer. Mais quel professeur n'a jamais entendu se faire reprocher par un élève « Eh monsieur, vous m'aimez pas !» Mais faut-il marquer de l'affection aux élèves? La tradition de l'école française serait a priori de dire non. Cependant, il existe des centaines d'études en psychologie de l'éducation qui ont montré les nombreux effets positifs du lien affectif enseignant-élève. Il existe une controverse au sujet de la dimension affective dans les métiers de l'éducation. Lorsqu'on interroge des enseignants ou des éducateurs à propos de la relation affective qu'ils ont avec les élèves, et en particulier avec les adolescents, la gêne apparaît rapidement. Les professeurs reconnaissent que la relation affective peut difficilement être discutée en équipe parce que cela serait très mal vu par leurs collègues de parler de leurs sentiments.
Il y a donc un malaise quand on parle de sentiments à l'école.
Mais une première explication vient de la place absurde que tient encore aujourd'hui la controverse instruction-éducation à l'école et dans les débats de société. Pour les tenants d'une école de l'instruction, la dimension affective est une menace pour la fonction de transmission du savoir. Cette idée, qui n'est soutenue par aucun argument scientifique, est défendue par de nombreux enseignants, journalistes et pédagogues.
On invoque souvent une nécessaire distance professionnelle.
Alors, la notion de distance professionnelle dans les métiers relationnels, héritée de certaines approches psychanalytiques, se présente ici comme un obstacle à l'engagement affectif. Cette distance n'a pourtant jamais été conceptualisée de manière satisfaisante. En outre, la professionnalisation des métiers du social s'est faite par une mise en avant des compétences techniques aux dépens de l'aspect relationnel des différents métiers. Cet aspect relationnel est plus difficile à enseigner et parce qu'il renvoie trop à la vocation et aux bons sentiments.
Mais alors le lien affectif établi entre un jeune et un professionnel de l'éducation est-il systématiquement bénéfique ?
Mais par lien affectif, il faut comprendre une relation asymétrique qui s'appuie sur la sensibilité de l'adulte et sa capacité à répondre aux signaux de l'enfant en faisant preuve d'acceptation et de chaleur affective. Ce type de relation a besoin de temps pour se construire et prend une place importante dans la vie des individus.
Le lien affectif avec un enseignant a donc des effets bienfaisants pour l'enfant.
Établir des relations chaleureuses avec les profs permet l'amélioration de l'estime de soi, de la motivation et la réussite scolaire, et ainsi que la baisse de l'anxiété. La relation à l'enseignant participe à la sécurisation affective des enseignants et des adolescents. Or, la sécurité ressentie par les élèves permet justement de stimuler leur engagement dans les apprentissages. C'est ce que défend Daniel Favre, psychologue de l'éducation, depuis des années. Contrairement à ce que défendent certains praticiens d'une pédagogie de la dévalorisation, le sentiment de n'être ni accepté ni estimé n'a jamais aidé à apprendre.
Mais n'y aurait-il pas des limites à la relation affective pour un professionnel ?
Oui, bien sûr, la relation affective ne doit pas être exclusive. De plus, il est indispensable de considérer la relation affective enseignant-élève comme asymétrique et au service du développement des enfants. Ainsi, l'enseignant porte une attention particulière aux besoins d'autonomie de ses élèves.
Les professionnels qui envisagent d'être utiles aux jeunes par le lien affectif ne manquent-ils pas d'affection eux-mêmes ?
Bon, alors, il y a une forte dimension culturelle dans ce tabou. Se montrer affectif revient à se montrer vulnérable. Or, les équipes éducatives, tout comme d'autres équipes professionnelles, peuvent être très rudes avec ceux qui apparaissent comme vulnérables. Dans ce contexte, les enseignants ont raison de redouter de s'exprimer publiquement sur leurs sentiments.
Les enseignants les plus affectueux ne sont-ils pas les moins compétents ?
Alors, cet effet compensatoire peut nous aider à comprendre la tendance à considérer les enseignants les plus affectifs comme les moins compétents. Cependant, il y a de nombreux enseignants qui se trouvent posséder à la fois des capacités relationnelles et des capacités pédagogiques. C'est la combinaison de ces deux types de compétences, relationnelles et pédagogiques, qui produit les meilleurs résultats avec les élèves. Bon, en d'autres termes, il est non seulement possible, mais également bénéfique de s'engager affectivement, tout en maintenant un niveau d'exigence élevé avec les élèves.
Alors, que pourrait-on dire aux enseignants qui culpabilisent encore ce lien affectif qu'ils ont avec leurs élèves ?
Eh bien, je dirais que les professeurs devraient ne pas chercher à jouer la distance ou à cacher leur implication à leurs élèves. Ils pourraient montrer qu'ils sont attentifs à eux. Et si un élève un jour s'offusque pour une raison ou pour une autre en disant « Mais pourquoi vous ne m'aimez pas, monsieur ?» Eh bien, je suggérerais de ne pas se précipiter pour répondre « Parce que je ne suis pas là pour t'aimer ». La relation profitera davantage d'une réplique curieuse du type « Mais qu'est-ce qui te fait dire ça ?»
Merci Arthur.
Merci beaucoup Arthur, merci Mathilde pour cette petite promenade sur le chemin de l'école. Et on passe donc tout de suite au journal de la culture, un journal de la culture un petit peu spécial cette semaine puisque de l'autre côté du jingle vous attendent de nouvelles voix.
Bonsoir Mathilde. Alors ce soir, impossible de ne pas parler culture pour ce JRA, mais impossible aussi de remplacer Sarah et Léa, et loin de nous cette idée. Alors Arthur et moi avons décidé de vous parler culture, mais pas que.
J'ai la sensation de m'être quand même... tu vois, c'est comme prendre le pantalon de quelqu'un d'autre, mais bon... Comment ça, pas que ?
Non. Ce soir, on vous propose de lier culture avec la politique et les sciences sociales, si c'est possible, tout en vous donnant de très bonnes idées de lecture et de sortie, c'est promis. Alors Arthur, je crois que tu veux nous parler d'un film phénomène qui dépasse Titanic au box-office et qu'on compare même, attention, ça va en faire grimacer certains, au temps retrouvé de Proust.
Et oui, je vais abaisser le niveau du journal de la culture en parlant du film le plus pognon de toute l'histoire du cinéma actuellement. Je veux parler bien sûr d'Avengers Endgame. Mais je ne vais pas parler du film lui-même, dont chacun peut avoir son appréciation. Non, j'ai envie de m'intéresser à la réception qui, en plus en France, est particulièrement drôle. Parce que les critiques ont crisé. C'est tout ce que reporte Frédéric Martel dans son article sur France Culture. C'est que... Personne ne sait comment prendre cet Avengers par le bon bout, si ce n'est quelques bons blogueurs ou quelques vidéastes. Et on ne sait pas si ça vient du fait que ça soit des adultes qui écrivent des chroniques, des adultes qui n'ont pas forcément les codes pour essayer de comprendre ou qui n'ont pas suivi tout le Marvel Cinematic Universe, ou si tout simplement il n'y a pas aussi un peu d'anti-américanisme derrière. Mais derrière cette réception, et là des réceptions un peu plus critiques et avisées, il y a une sorte d'inquiétude derrière. Avengers était très satisfaisant. Mais lorsqu'on sait que le prochain film du MCU arrive dans 2 mois, propose une nouvelle intrigue, et qu'ils vont quand même, ils ont un planning prévu jusqu'à 2028, on commence à se poser une question, parce que à chaque fois on parle d'un univers étendu qui serait comparable à celui de Proust, à celui de Balzac. Mais en fait, mais Marie, on serait bien plus proche, tout simplement de l'évolution des comics. Les comics de Marvel qui sont à mi-chemin entre le périodique, à savoir qu'on revient toujours à une situation et donc il faut avoir des archétypes, un peu comme dans Friends, mais aussi le sériel, c'est-à-dire que tout simplement il faut avoir des sagas, il faut avoir au moins quelque chose qui pousse le lecteur à l'acheter. Le seul problème, c'est que quand ça dure depuis 60 ans, eh bien il y a des problèmes pour relancer les enjeux dramatiques et Endgame, on a la sensation tout de même que par le voyage dans le temps, commence à rentrer dans les pires travers des comics, à savoir l'univers multiple et les diverses intrigues et qui ne savent plus comment captiver le spectateur.
Alors bon, je crois qu'on a compris avec toi Arthur que la culture c'était aussi de beaux débats, un peu de surprise et un combat entre la culture populaire et le reste, et un petit peu aussi contre l'Amérique. Je vous propose maintenant de lier culture et politique pour un petit tour d'horizon de l'actualité culturelle.
Mais comment ça culturel ? Mais parce que là, le seul truc, c'est que c'est la politique qui s'est quand même invitée à Versailles et à la Biennale d'architecture.
Alors oui, c'est ça. La Biennale d'architecture et de paysage de Versailles, c'est 6 expositions et un ensemble de conférences, de films et d'ateliers. Et si la programmation s'apparente plus à un patchwork peu cohérent qu'à un programme bien ficelé, la Biennale a le mérite de mettre l'accent sur les défis climatiques et de marier habilement architecture classique et propositions contemporaines.
Mais... pourquoi on irait à Versailles pour voir ça alors ?
Eh bien, parce que plusieurs choses vous attendent. Déjà, au château, commençons par le plus attendu, vous découvrirez une sélection de projets d'architecture brillants et intrigants qui ne se sont pourtant pas concrétisés. Au Potager du Roi, une exposition a pour ambition de mettre en valeur le monde paysan et sa culture en donnant la parole à 25 agriculteurs franciliens. Et dans la Galerie des Moulages, vous pourrez admirer l'une des plus belles réserves de sculptures du château de Versailles et du Louvre. Plus original et pour finir, vous pourrez admirer Augure, véritable condensé de propositions architecturales modernes et étonnantes.
Mais quand t'es un gros barbare comme moi, là je me pose action, elle est où la politique dans tout ça ?
Alors, ça vient. Derrière cette biennale inédite, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, ne cache pas sa volonté de promouvoir le projet du Grand Paris. Cette première biennale d'architecture et de paysage, je cite, est un événement majeur pour la région qui mène une politique volontariste en matière d'aménagement et du territoire et d'urbanisme. Ah oui, j'avais oublié ce détail, dans l'ancienne poste, l'exposition Horizon 2030 concentre des maquettes des futures gares du Grand Paris Express. La présidente de région a d'ailleurs aussi profité de l'occasion pour mettre en valeur une politique concrète en annonçant la création de grands prix régionaux de l'architecture dans le domaine du logement, des équipements publics ou de l'éco-construction. Et d'ailleurs, savez-vous qui a inauguré cet événement ? Un architecte ? Non, pas de paysagiste non plus, mais bien un ancien président. C'est en effet Nicolas Sarkozy qui a ouvert les festivités par un discours, ou une succession de phrases choc, je ne sais pas, j'hésite encore, qui a parlé de tout, sauf du programme des expositions, et dont on peut retenir 2 choses. D'abord, l'ancien président a dénoncé une forme de disparition de l'Occident. L'axe du monde, je cite, était occidental, ce n'est pas être décliniste que de dire qu'il est aujourd'hui oriental. Un déclin que le président a justifié par le fait que si une société vivante construit et bâtit, en France, au contraire, les associations de riverains ou d'écologistes entravent les grands projets d'infrastructure et empêchent les constructions nouvelles. Et Sarkozy d'évoquer ensuite, dans un deuxième temps, un projet de Grand Paris qu'il a défendu avec une ferveur évidente. Le projet va rapporter de l'argent, nous dit-on, car il sera témoignage de l'ambition et de la croissance française. Et le président doit casser les résistances et entraîner derrière lui pour mettre en œuvre ce projet, nous dit Sarkozy.
Ça me donne envie d'écouter un petit florilège, tout ça.
Alors, il y avait une très bonne imitation, il y avait beaucoup à dire, mais je crois que les deux phrases suivantes sont assez représentatives. Numéro 1. Je ne peux pas me résoudre à voir partout des grues, des chantiers, des métros fantastiques, des musées, et on me dit qu'ici on a renoncé parce qu'il y avait le crapaud à dos doré. Et numéro 2, c'est très malin, mais vous croyez que Louis XIV, pour faire Versailles, il avait de l'argent? Et le château, il est amorti depuis? Ça me fait plaisir de voir qu'il y a une dame là, au deuxième rang. Elle a réfléchi, et elle a compris. Je cite, hein, c'est...
Bon, on va passer à quelque chose de plus fun, et je crois qu'actuellement, quand même, un événement culturel tout aussi pognon se prépare. La chose dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux, même malgré le fait que ça soit pas très bon, la 8e saison de Game of Thrones.
Alors, quand on parle de GOT, on peut parler d'absolument tout, et vous vous doutez bien du coup qu'on peut aussi parler de politique, et les médias s'en donnent à cœur joie. Alors tenez par exemple, les journalistes du Monde nous proposent cette semaine de traiter la fin de Game of Thrones comme une élection. Et si la saison 8 de GOT était une présidentielle, quels seraient les candidats pour le premier tour?
Et la réponse?
Alors des candidats nombreux qui s'affrontent dans l'ombre à coups d'alliances officieuses et de négociations habiles. Arya Stark, la Nicolas Hulot de Westeros. Cersei Lannister, actuelle détentrice du trône, qui prend un malin plaisir à traiter ses opposants comme Mitterrand traitait Chirac en 1988. Indifférence, puis assurance. Bon, la différence, c'est que pour elle, le concept d'assassinat politique est à prendre au pied de la lettre. Jaime Lannister, la Manuel Valls de Westeros, dont personne ne parvient à déterminer le parti politique et qui a fait des volte-face sa spécialité. Et ensuite, Tyrion Lannister, le Jacques Attali de Westeros, qui est conseiller de presque tous les dirigeants. Et enfin, et j'en passe bien sûr, Sansa Stark, qui pourrait avoir divulgué le contenu d'un document secret défense pour mettre en difficulté ses adversaires. Bref, la démarche fait sourire, mais GOT, c'est aussi une série philosophique qui pose de vraies questions. Marianne Chaillon, professeure de philo, a d'ailleurs écrit un ouvrage de titre évocateur, Game of Thrones, une métaphysique des meurtres, et elle décrit la série comme une dissertation géante de philosophie politique dans laquelle chaque personnage incarne la mise à l'épreuve d'une vision de la souveraineté. Le médiéviste William Blanc écrit, lui, que la série nous plonge dans un univers qui a beaucoup à voir avec la tragédie des rois capétiens, Le nom de la rose d'Umberto Eco, ou les sombres manigances de la papauté et de l'inquisition. L'affrontement entre les familles Stark et Lannister ferait d'ailleurs penser aux Capétiens et aux Plantagenets pendant la guerre de Cent Ans et à Henri IV dont la mort a provoqué la guerre des Deux Roses. Bref, de Machiavel à Hobbes, du Moyen-Âge à l'histoire récente, les références sont multiples.
Surtout que face à Game of Thrones, c'est des questions plus générales qui sont évoquées. Par exemple, lorsque, et George R. R. Martin l'a avoué, lorsque on parle des marcheurs blancs, le grand hiver qui approche, en fait, c'est toute réponse humaine par rapport à une forme de transcendance, d'événements qui dépassent, qu'ils souhaitaient mettre en avant. Et ce qu'ils souhaitent parfaitement mettre en avant, c'est que même face à un événement qui est complètement renversant, l'humanité continue à se massacrer, l'humanité continue à faire attention à son petit présent. Et je trouve que c'est quand même d'une actualité qui est quand même assez désarmante.
Alors oui, on voit donc du coup qu'on a du grain à moudre maintenant, et je crois que vous, quand vous regarderez un nouvel épisode de la série, vous pourrez dire, pour ne pas vous sentir coupable, que vous étudiez sérieusement les relations internationales et la tragédie des biens communs et du réchauffement climatique.
Oui, et si je vous dis qu'il y a une série à ne pas manquer, et à voir absolument, et à suivre sans hésiter, vous allez me dire, tu vas me dire quoi Marie, Qu'il s'agit de
Wire.
Watchmen.
Ok, non, alors rien de tout ça, mais une série qui elle aussi parle de politique et de notre monde actuel. Elle s'appelle Tchernobyl, est signée Craig Mazin, produite par HBO et diffusée sur OCS City, et elle revient sur l'accident nucléaire qui marquera l'histoire. L'ambiance est glaçante, l'atmosphère glauque, la musique angoissante et le sujet traité sans détour. En nous plongeant dans un URSS au bord du gouffre, le réalisateur nous donne aussi à voir comment le déni des hauts responsables de la centrale touche les instances dirigeantes du pays, prêtes à tout pour protéger le régime, quitte à livrer de fausses informations qui feront de nombreux morts. Un récit intelligent, minutieux et terrifiant qui évite pathos et sensationnalisme et qui aborde sans détour le déni de la réalité scientifique et la puissance destructrice de la propagande. Tchernobyl ne parle pas des dangers du nucléaire, explique le réalisateur, mais des mensonges et du danger de l'aveuglement. Une série qu'on vous conseille chaleureusement.
Celle qu'on vous conseille moins, en revanche, c'est l'Éden de Dominique Molly, diffusée sur Arte, qui traite le sujet de la crise migratoire en croisant de manière intéressante les parcours de plusieurs groupes d'individus. Mais il ne parvient pas à éviter, en tout cas, une certaine caricature et l'archétype lorsqu'elle nous donne à voir une gérante de camp privé, de migrants obnubilés par le profit et dénués de toute humanité, ou un fils allemand qui rejette en bloc le réfugié syrien que sa famille décide d'accueillir et est à lui seul un concentré de tous les clichés sur la religion musulmane. Bref, une série dont la démarche est intéressante, mais qui dresse un constat amer de la situation et sans vraiment convaincre, je crois.
C'est ça, vous avez quand même des idées de lecture et de choses à voir en tout cas.
Surtout pas Game of Thrones.
Il est 21h, passé de 17 minutes, vous êtes à l'écoute de Transistor. On termine ce volet culturel avec une chronique musicienne. Ouais. Bonsoir Maë, bonsoir Benoît.
Bonsoir Rémi. Alors Benoît.
Pourquoi les Autrichiens n'aiment-ils pas Liszt?
Parce qu'il...
Liszt.
Hey, pourquoi du coup, pourquoi?
Bah je sais pas.
Parce qu'ils le trouvent trop austère, Liszt.
Je vais dire des trucs simples. I need somebody.
Alors pendant que Arthur le survivant peut enfin se moucher, de quoi nous parlez-vous ce
soir ? Force à toi frère, force à toi. C'était il y a 10 ans, j'étais en 5e, encore une fois, quand je me suis précipité à la sortie des cours le 16 octobre pour acheter le dernier disque de Rammstein, Liebe ist für alle da. Mes oreilles échaudées de ce groupe allemand sombre et provoque ne pouvaient pas résister. Un métal industriel puissant, carré, suffisamment lyrique pour faire trembler mon petit cœur d'ado qui commençait à peine à conjuguer les verbes de modalité au passé. Imaginez en pleine croissance exponentielle normone.
Non, on veut pas savoir, Benoît.
Laisse-moi dire, découvrir un groupe dont le premier clip réservé au... je me suis perdu. Découvrir un groupe dont le dernier clip est réservé aux divers portails pornographiques tant il montrait de choses. Brouh, j'en ai encore des frissons. Et après 10 ans de silence, mesdames et messieurs, 10 ans c'est long, 10 ans c'est...
La vieillesse,
et
ouais.
Et voilà. Et là, boum, nouvel album, tout frais, tout beau, on n'attendait plus. Je n'en voulais pas parce que j'avais peur que ce soit naze, repompé, toujours la même chose. Mais en même temps, à 20 piges, j'en redemandais encore. Et là, ils l'ont fait.
Voilà qui sait conjuguer ces verbes de modalité.
Eh, mieux que moi en 5e. J'avais pas beaucoup en cours. Mais quand même.
Double style, grosse cartophone.
Merci, mec. À la première écoute, j'étais sur le cul, pas tant pour le morceau en lui-même que pour son ambiance. Un clip de 9 minutes qui retrace 2000 ans d'Allemagne avec une dérision outrancière. Toujours ces mêmes envolées du chanteur Till Lindemann. Et ce riff qui reste en tête qu'on a envie de reprendre à tue-tête dans les stades.
Et c'est tout ?
Ah non, à peine avais-je eu le temps de me remettre de ma claque que je venais de prendre. Un, deux... Aïe ! Bim ! Deuxième single, radio haute aux antennes libres subsistant en RDA, ayant permis une diffusion incroyable de contenus et de styles musicaux dont la trace reste vive dans les compositions du groupe. Et là, autant le premier single avait mis du temps à m'attraper, autant celui-ci m'a cueilli purement et simplement. Des petites notes électro façon Berlin S des années 90, où chaque ruine devenait un espace de création éphémère, le temps d'une soirée, le temps d'un set. Ceci mêlé aux envolées inspirées de la période Sturm und Drang de Goethe, et je me rends compte que je frissonne toujours. Pour les fans, pour les curieux, ça sort dans une semaine, et je compte chaque dodo qui me sépare de ce nouveau bébé.
vous le voyez venir, ce mois de mai pluvieux.
Ce pollen du bad.
Ces longues journées à rêver de chill et passer à procrastiner sur un mémoire qui n'avance pas. Ce mois de mai plongé dans une pénombre rassurante, une pénombre de soirée d'été, pas encore caniculaire, passé à se souvenir du bon vieux temps, une clope au bec et un verre de vin rouge à la main.
Bobo.
Pas le choix. Obligé de trouver la musique adéquate pour vous parler. Idéalement, il faudrait un petit mix entre cet album d'Alicia Keys que j'écoutais dans le noir quand j'avais 10 ans. Some people live
for the fortune. Chou. Some people live for the fame. Some people live for the power,
yeah. Some people live just to play the game. Un petit mix entre Alicia Keys et un petit jazz à la Brad Meldo bien confortable. Et ça tombe bien.
Quel hasard.
Bebe m'a déniché.
Ainsi que les 4 millions de personnes qui ont poncé YouTube.
Un album de folie. J'ai nommé Structuralism d'Alphamist. Le jeune anglais frappe très fort avec ce dernier album sorti en mars dernier. Dans vos enceintes, une partition hybride entre jazz et hip-hop pour une ambiance tamisée style...
90s. Pas Ninette, 90s. Joli bien.
Merci le correcteur orthographique. Donc style 90s, femme fatale et jazzman tout en retenue. Alphamist décrit d'ailleurs lui-même sa musique comme...
du jazz alternatif et sombre, parsemé d'éléments de hip-hop et de soul.
Son modèle, Miles Davis, notre pianiste rappeur à bon goût.
Un peu classique.
Et il sait s'entourer. L'année dernière, il avait déjà sorti en autoproduction le très bon Antiphone, peut-être un chouïa plus jazzy, avec notamment la chanteuse bassiste Kaya Thomas-Dyke, et le trompettiste John Wooden. Avec son goût prononcé pour les climats sombres et mélancoliques, Alphamist a tout pour plaire.
A tout pour te plaire.
Jazz profond, subtil, mature, londonien pour rêver tranquillement à des histoires douces et des nuits d'apesanteur. Fermez les yeux et laissez-vous bercer. Il est 21h25 et on finit le journal radiophonique amplifié numéro 52. Cette semaine, c'était avec Marie Douniac, Benoît Auclair, Arthur Kramer, Maë Burla, Arthur Guérin-Turc, désolé Arthur Kramer, et en régie Félix Barancy. Nous remercions également UNS Média pour son soutien technique. Le journal radiophonique amplifié, c'est une émission coordonnée par Mathilde Picard et Rémi Cerda. La prochaine diffusion est encore en discussion, mais on disparaît pour 2 ou 3 semaines avant de finir l'année en toute beauté.